Le repos de l'Éternel dans le pays. Nous ne devrions jamais sous-estimer Dieu, car il est Dieu. Il est le Seigneur de tout, et c'est seulement en lui que nous trouverons le repos et la paix. L'homme peut hésiter, l'homme peut tergiverser, mais « Je suis l'Éternel, je ne change pas » Malachie 3:6. Les nations peuvent venir, les nations peuvent partir, mais heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 33:12. Veuillez vous reporter au psaume 37. Dans les moments difficiles, nous pouvons nous reposer sur l'Éternel et savoir qu'il sera notre refuge si nous l'attendons patiemment. Psaume 37, verset 7, Osterwald. Demeure tranquille en regardant à l'Éternel et t'attends à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui vient à bout de ses desseins. Après la mort de Josué et avant le ministère de Samuel, Israël est entré dans une période de trouble où il a abandonné l'Éternel son Dieu et où chacun faisait ce qui lui semblait bon, selon Juges 17, verset 6. C'est au cours de cette période turbulente de l'histoire d'Israël que Dieu a envoyé une série de juges pour remettre les choses en ordre et détourner les gens de leur mauvaise voie pour qu'ils se reposent en l'Éternel en rétablissant à chaque fois le repos dans le pays. Le livre des juges est le récit des interventions répétées des juges en faveur du peuple de Dieu. Les juges du livre des juges ne ressemblaient pas à ce que nous connaissons dans notre société moderne. Le mot hébreu pour juge, shofet, signifie redresser puis gouverner, ou ramener les choses à la règle du droit. En tant qu'émissaire de Dieu auprès du peuple, les juges, chacun en son temps, ont rempli une mission pieuse spécifique et ont marché avec la puissance et l'Esprit de Dieu pour conduire le peuple de Dieu à la victoire sur ses ennemis. Quatre de ces libérateurs sont spécifiquement mentionnés dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 11, verset 32. Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé. Ce sont les seuls que nous aborderons puisque ce sont les quatre mentionnés dans les juges, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Qu'est-ce qui a permis à ces hommes de vaincre alors que les circonstances semblaient se liguer contre eux? La foi. Lorsqu'ils ont reçu une mission de l'Éternel, ils ont chassé le doute et se sont jetés dans la mêlée en croyant Dieu, sachant que c'était l'Éternel lui-même qui les accompagnait dans la lutte. Ils ont reconnu la seigneurie de Dieu et se sont confiés à lui de tout leur cœur, sans se fier à leur propre force. En un mot, ils étaient à fond. Ils ont compris la vérité du psaume 127. Psaume 127, verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Examinons chacun de ces hommes et voyons comment l'Éternel Dieu a rétabli le repos dans le pays lorsque son peuple s'est détourné des idoles pour revenir à lui en tant qu'Éternel et s'est reposé en lui. Juges 6. À l'époque de Gédéon, Israël était opprimé par Madian. Israël était tellement opprimé qu'il devait se cacher dans les grottes et les antres des montagnes après avoir planté ses récoltes dans les plaines fertiles. Madian arrivait alors et détruisait la terre, dévorant les produits avant qu'Israël ne puisse le faire, puis emmenait tout le bétail. C'est à ce moment-là qu'Israël a pris un tournant et qu'il a adressé l'appel au secours de son cœur à l'Éternel lui-même. Dieu envoya alors un prophète pour leur dire, Juges 6:10, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Après cela, l'Éternel envoya son ange à Gédéon pour lui dire qui serait avec lui. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en menacée, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » La réponse à toutes les questions de Gédéon était, « Je serai avec toi. » Bien souvent dans la vie, la réponse à toutes nos inquiétudes est de le reconnaître comme l'Éternel et de faire confiance non pas à nos propres forces, mais aux siennes. Si l'Éternel est avec nous, qui peut être contre nous? Gédéon prit courage et partit, rassemblant 300 hommes, les divisant en 3 compagnies distinctes et leur fournissant à chacun une trompette et une cruche vide, avec un flambeau à l'intérieur. Les trompettes, les cruches et les flambeaux ne sont pas des armes de combat, à moins que l'Éternel ne garde la ville. Dieu avait promis à Gédéon qu'il frapperait les Madianites comme un seul homme. Pour ce faire, lui et ses troupes doivent agir à l'unisson, en suivant les instructions de Dieu. Gédéon leur dit qu'après avoir encerclé les abords du camp au milieu de la nuit, ils devaient sonner les trompettes, briser les cruches et, flambeau à la main, crier « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Lorsqu'ils firent cela, l'ennemi fut terrifié à mort et, dans la confusion de la nuit, tous commençaient à s'attaquer les uns les autres, tandis qu'ils fuyaient jusqu'au point où il ne restait plus que 15 000 des 120 000 hommes d'origine. Gédéon et sa troupe de 300 hommes s'attaquèrent à ce qui restait. Quelle incroyable démonstration de force pour un si petit contingent. Mais même s'ils ont vaincu l'ennemi, le travail de Gédéon n'est pas terminé. Il doit encore le rappeler qui est le véritable chef. En Juges 8, verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils. » Car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Israël a dû croire Gédéon, car il est dit plus loin que le pays est resté tranquille pendant 40 ans sous Gédéon. Cette année d'oppression, suivie de 40 années de repos. Quelle grande délivrance! Lorsque nous, en tant qu'un seul homme, reconnaissons Dieu comme notre chef et l'adorons, il y a du repos de l'Éternel dans le pays. Juges 4. Déborah et Barak formaient une équipe formidable, croyant Dieu ensemble. Déborah était une prophétesse qui jugeait Israël. Barak était un commandant d'armée croyant. Les Cananéens ont cruellement opprimé Israël pendant 20 ans. Lorsqu'Israël s'est repenti de son idolâtrie et a appelé l'Éternel à l'aide, Dieu a suscité la juge Déborah pour remettre les choses en ordre. Juges 4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Ramah et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Déborah n'avait pas peur, et Dieu lui a parlé pour qu'elle prenne des choses en main. Suivant les conseils de Dieu, elle a exhorté Barak à se lever et à agir en fonction de ce que Dieu lui avait déjà dit. Verset 6. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson, Sisera, chef de l'armée de Jabin, le roi des Cananéens, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Que diriez-vous de recevoir cette commission en tant que commandant? Organisez vos troupes. Moi, l'Éternel, je ferai sortir l'ennemi et ses troupes. Moi, l'Éternel, je le livrerai entre tes mains. Pour moi, c'est le succès assuré. Il suffit de suivre les ordres. » Et au verset 14. Alors, Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? » Et Barak descendit du mont Tabor, et en 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harosheth-Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. Quelle incroyable victoire! Il ne reste plus un seul homme dans l'armée ennemie. Déborah et Barak se réjouissent auprès de l'Éternel en chantant la victoire. Juges 5, verset 1. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre, bénissant l'Éternel. Roi, écoutez! Prince, prêtez l'oreille! Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel! Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël! Juges 5, verset 12. Réveille-toi! Réveille-toi, Déborah! Réveille-toi! Réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Et au verset 31. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel! Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. De 20 ans d'oppression à 40 ans de repos, quel temps de rafraîchissement! Les ténèbres tombent lorsque les hommes abandonnent l'Éternel. Le soleil se lève à nouveau lorsque nous tournons nos visages vers lui. Puissions-nous aller dans la puissance de sa lumière. Ce sera vraiment un jour nouveau pour nous et pour nos nations. Dieu n'a pas changé. La volonté de Dieu pour son peuple est toujours qu'il y ait du repos de l'Éternel dans le pays. Juges 13. Même dans les moments les plus désespérés, Dieu n'hésite pas à susciter des libérateurs pour son peuple. Le nom Samson signifie « petit soleil ». Samson sera un lever de soleil pour Israël. Israël était sous le joug des oppresseurs philistins depuis 40 ans. La mère de Samson était stérile, mais dans ces circonstances désastreuses, l'ange de l'Éternel lui a promis qu'elle mettrait au monde un fils qui sauverait Israël. Elle devait le consacrer à sa naissance pour qu'il soit mis à part pour Dieu pour la vie. Juges 13, verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Un Naziréen était un homme ou une femme consacré au service de Dieu par un vœu solennel de séparation. Dans un vœu ordinaire, on peut consacrer à Dieu un bien matériel. Si vous prononciez le vœu de Naziréen, vous consacriez votre personne tout entière au service de Dieu. Ayant été consacré comme naziréen par ses parents, Samson devait être consacré à Dieu toute sa vie. Alors que le jeune Samson atteignait la maturité, l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Plus tard, lorsqu'il a dit à ses parents qu'il voulait épouser une Philistine, ils n'ont pas compris pourquoi. Mais Dieu était derrière tout cela. Juges 14, verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Après une série de conflits aggravés entre Samson et les Philistins, ceux-ci capturent sa femme et son père et les brûlent vifs. Comme si cela ne suffisait pas, ils firent une incursion en Juda et exigèrent que Samson leur soit livré dans les liens. À ce moment-là, les hommes de Juda ne sont pas d'un grand secours. Juges 15, verset 11. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher des temps et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Les hommes de Juda s'étaient résignés à ce que les Philistins dominent sur eux. Ils ont oublié les paroles de Gédéon, « C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Samson, lui, savait ce qu'il en était. Il se laisse livrer enchaîné à l'ennemi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Juges 15, verset 14. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, « Avec une mâchoire d'âne, un morceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. » Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramat Leshi, signifiant la colline de la mâchoire. Comment un seul homme pourrait-il en abattre 1000? Seulement par la foi, en croyant Dieu. Samson a cru Dieu, il n'a reculé devant rien. Nous aussi, nous pouvons vaincre nos ennemis lorsque nous reconnaissons le seul vrai Dieu comme la source de toute notre force. Samson a jugé Israël pendant 20 ans. Israël s'est à nouveau rendu compte que seul l'Éternel pouvait régner sur lui. Lorsque le peuple de Dieu se tourna sérieusement vers lui, il y eut du repos de l'Éternel dans le pays. Juges 11. Jephté a jugé Israël alors qu'il était durement éprouvé par les fils d'Ammon, qu'il avait opprimé pendant 18 ans. Bien que puissant guerrier, Jephté était le fils d'une prostituée, ce qui lui valut d'être ostracisé dans ses premières années. Mais lorsqu'Israël a besoin d'un libérateur, il se tourne vers Jephté. Il accepte d'être leur chef si l'Éternel lui livre les fils d'Ammon. On n'aurait jamais imaginé que Jephté avait été rejeté par Israël si l'on en juge par la façon dont il a traité les ennemis du peuple de Dieu. Lorsqu'ils accusent Israël d'être l'agresseur, il répond sans embâche que l'Éternel est le seul et unique vrai juge. Juges 11, verset 23. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi les Amoréens qui auraient la possession de leur pays? Ce que ton Dieu Kemosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas? Je ne t'ai point offensé, tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. Verset 29. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté. Verset 30. Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Le mot hébreu traduit par holocauste est Ola, O-L-A-H. Ce qui distingue ce sacrifice particulier des autres n'est pas qu'il ait été brûlé au feu, puisque de nombreuses offrandes étaient partiellement rôties puis mangées. Ce qui distingue le Ola, c'est que de tous les sacrifices, c'est le seul qui ait été entièrement brûlé, complètement consumé. Ce qui le distinguait n'était pas le fait de brûler, mais de donner l'animal en entier. L'animal entier était amené sur l'autel et offert en cadeau à l'Éternel. Comme les autres juges que nous avons étudiés, Jephté a pu délivrer le peuple de Dieu parce qu'il a donné tout son cœur à l'Éternel. C'est pourquoi il a fait un tel vœu. Verset 32. Jephté marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Jephté retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici, sa fille sortit devant lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille! Tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Jephté est bouleversé à l'idée de vouer sa fille unique à une vie de virginité perpétuelle au service de l'Éternel, car cela l'empêcherait d'avoir une postérité à son nom. Mais la merveilleuse jeune fille qu'elle était comprit l'engagement pris par son père. Verset 36. Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Ammon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Jephté n'a pas offert sa fille en sacrifice pour qu'elle soit brûlée vive sur l'autel, car Dieu avait clairement indiqué à Israël dans la loi que les sacrifices humains étaient une abomination. En revanche, elle a consacré toute sa vie au service de l'Éternel, et c'est cela l'offrande complète, ou l'Holocauste. Grâce à l'engagement de Jephté et de sa famille, il y avait du repos de l'Éternel dans le pays. Nous avons vu un cycle dans le livre des Juges. Israël retombe dans l'idolâtrie, tombe dans l'oppression, crie à l'aide de Dieu et finalement croit et suit un libérateur envoyé par Dieu. Dans chaque cas, un seul homme ou une seule femme est à l'origine de la délivrance. Chacun de ces juges a fait 2 choses. Numéro 1, ils ont reconnu la seigneurie de Dieu dans leur vie. Et numéro 2, ils ont cru Dieu. Voilà ce qu'est la foi. Tous leurs exploits incroyables ont été accomplis par la foi. Gédéon connaissait et reconnaissait Dieu comme souverain sur tout et agit de concert avec le peuple, convaincu que Dieu avait livré l'ennemi entre leurs mains. Déborah savait et reconnaissait que l'Éternel marchait devant Israël et qui remettrait l'ennemi entre leurs mains. Elle a hardiment exhorté Barak à mener l'armée d'Israël à la victoire. La victoire remportée, Déborah et Barak célèbrent en chantant que les chefs ont pris les devants et conduit les captifs en captivité, et que le peuple s'est offert volontairement à l'Éternel. Samson, consacré pour être donné à l'Éternel pour le service de toute une vie, n'a pas hésité lorsque l'Esprit de Dieu l'a stimulé. À chaque fois, il partait au combat en triomphant, avec une force que personne n'avait jamais vue auparavant. Jephté connaissait et reconnaissait Dieu comme le seul et unique juge de l'humanité, refusant de s'incliner devant les accusations de l'ennemi. Lui et sa maison étaient prêts à faire tout ce qu'il fallait pour consacrer leur vie entière au service de l'Éternel. Lorsqu'ils prirent position, il y eut du repos de l'Éternel dans le pays. Jésus-Christ a reconnu la seigneurie de son Père comme aucun autre homme ne l'a jamais fait. Il a également cru Dieu jusqu'à l'extrême. Tel est l'essence de la foi dont Jésus-Christ a fait preuve. Sachant cela, nous pouvons mieux comprendre pourquoi Jean 2, 17 dit de lui « Le zèle de ta maison me dévorera ». C'est parce que Jésus-Christ a tout donné, tout entier. Sa vie entière a été une offrande à Dieu. Aucune autre offrande ne peut être comparée à celle faite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même en donnant sa vie pour nous tous sur la croix. Il est mort pour nous afin que nous puissions vivre et ne pas mourir pour Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons nous présenter à Dieu, non comme des morts, mais comme des sacrifices vivants. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La mesure de foi qui est la nôtre aujourd'hui est la foi de Jésus-Christ. Lorsque nous rejetons la peur et l'idolâtrie et que nous fondons notre vie sur le socle de l'œuvre accomplie de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à la hauteur de tous les défis. Quel cadeau insondable! Lorsque nous croyons et marchons dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous honorons notre Dieu et Père de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, il peut y avoir du repos de l'Éternel dans le pays à notre époque. Puisse ce jour être aujourd'hui, que Dieu soit béni.